La montée des supercadres, un phénomène anglo-saxon. La seconde difficulté est sans doute la difficulté majeure rencontrée par la théorie de la productivité marginale et que ce décrochage des très hauts salaires a eu lieu dans certains pays développés et pas dans d'autres. Cela laisse à penser que les différences institutionnelles entre pays et non des causes générales et a priori universelles telles que le changement technologique ont joué un rôle central. Commençons par examiner le cas des pays anglo-saxons. De façon générale, la montée des supercadres est, dans une large mesure, un phénomène anglo-saxon. On observe en effet depuis les années 1970-1980 une hausse significative de la part du centile supérieur dans le revenu national, aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, au Canada ou en Australie. Voir graphique 9.2. Nous ne disposons malheureusement pas pour tous les pays de séries séparées pour l'inégalité des salaires et l'inégalité du revenu total, telles que celles que nous avons présentées pour la France et les États-Unis. Mais les données portant sur la composition des revenus par niveau de revenu total, disponibles dans la plupart des cas, indiquent que dans l'ensemble de ces pays, l'envol des hauts salaires explique la plus grande partie, généralement au moins les deux tiers, de la hausse de la part du centile supérieur de la hiérarchie des revenus, le reste s'expliquant par la bonne santé des revenus du capital. Dans tous les pays anglo-saxons, c'est avant tout la montée des supercadres, à la fois dans le secteur financier et dans les secteurs non financiers, qui explique la progression des inégalités de revenus des dernières décennies. Cette similarité d'ensemble ne doit cependant pas masquer le fait que l'ampleur du phénomène est très différente suivant les pays. Le graphique 9.2 est parfaitement clair sur ce point. Dans les années 1970, la part du centile supérieur dans le revenu national était très proche dans les différents pays. Elle était comprise entre 6 et 8% dans les quatre pays anglo-saxons considérés, et les États-Unis ne sortaient pas du lot. Ils étaient même légèrement dépassés par le Canada, qui atteignait 9%, alors que l'Australie fermait la marche avec tout juste 5% du revenu national pour le centile supérieur à la fin des années 1970 et au début des années 1980. 30 années plus tard, au début des années 2010, la situation est totalement différente. La part du centile supérieur atteint pratiquement 20% du revenu national aux États-Unis, alors qu'elle est de l'ordre de 14-15% du revenu national au Royaume-Uni et au Canada, et d'à peine 9-10% du revenu national en Australie. En première approximation, on peut considérer que la progression de la part du centile supérieur aux États-Unis a été de l'ordre de 2 fois plus forte qu'au Royaume-Uni et au Canada, et de l'ordre de 3 fois plus forte qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Si la montée des supercadres était un phénomène purement technologique, on comprendrait mal des écarts aussi importants entre des pays par ailleurs si proches. Il est à noter que les chiffres cités ne prennent pas en compte les plus-values, qui ne sont pas mesurées de façon parfaitement comparable dans les différents pays. Compte tenu du fait que les plus-values sont particulièrement développées aux États-Unis, la part du centile supérieur avec plus-value a nettement dépassé 20% du revenu national dans les années 2000-2010, l'écart avec les autres pays anglo-saxons est en réalité encore plus fort. Examinons maintenant le reste du monde riche, c'est-à-dire l'Europe continentale et le Japon. Le fait central est que la part du centile supérieur dans le revenu national y a augmenté de façon beaucoup plus faible que dans les pays anglo-saxons depuis les années 1970-1980. La comparaison entre les graphiques 9.2 et 9.3 est particulièrement frappante. Certes, on observe une progression significative de la part du centile supérieur dans tous les pays. Au Japon, l'évolution a été quasiment la même qu'en France. La part du centile supérieur était d'à peine 7% du revenu national au début des années 1980 et elle est d'environ 9%, voire légèrement plus, au début des années 2010. En Suède, la part du centile supérieur était d'à peine plus de 4% du revenu national au début des années 1980, le plus bas niveau enregistré dans la World Top Incomes Database, tout pays et toutes époques confondues. Et elle atteint 7% au début des années 2010. En Allemagne, la part du centile supérieur est passée d'environ 9% à près de 11% du revenu national entre le début des années 1980 et le début des années 2010. Si l'on examine les autres pays européens, on observe des évolutions similaires, avec des hausses de la part du centile supérieure de l'ordre de 2-3 points de revenu national au cours des 30 dernières années, aussi bien en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Au Danemark, comme dans les autres pays nordiques, le niveau des hauts revenus est plus bas, mais la hausse est similaire. Le centile supérieur recevait à peine plus de 5% du revenu national danois dans les années 1980, et il s'approche de 7% dans les années 2000-2010. En Italie et en Espagne, les ordres de grandeur sont très proches de ceux observés en France, avec une part du centile supérieur passant approximativement de 7% à 9% du revenu national au cours de cette même période, soit de nouveau une hausse d'environ 2 points de revenu national, voire graphique 9.4. L'union du continent européen est sur ce point précis quasi parfaite, si l'on accepte bien sûr le cas du Royaume-Uni, plus proche de la trajectoire observée en Amérique du Nord. Soyons bien clairs, ces hausses de l'ordre de 2-3 points de revenu national, observées au Japon et dans tous les pays d'Europe continentale, correspondent à des augmentations tout à fait significatives des inégalités de revenus. Concrètement, ces hausses signifient par définition que les 1% des revenus les plus élevés ont progressé sensiblement plus vite que le revenu moyen, et même très sensiblement plus vite puisque la part du centile supérieur a progressé de l'ordre de 30%, voire davantage dans certains pays où elle partait de plus bas, ce qui est très frappant pour les personnes qui vivent ces évolutions et qui souvent entendent parler presque quotidiennement dans les journaux et à la radio des hausses de salaire parfois vertigineuses des super cadres. Cela est particulièrement frappant dans le contexte économique des années 1990-2010, où le revenu moyen stagne, ou tout du moins progresse à un rythme beaucoup plus faible que par le passé. Le monde du millime supérieur. Il faut en outre noter que plus on monte haut dans la hiérarchie des revenus, plus les hausses ont été spectaculaires. Et même si ces hausses concernent au final un nombre limité de personnes, elles n'en sont pas moins extrêmement visibles et posent naturellement la question de leur justification. Si l'on examine l'évolution de la part du millime supérieur, les 0,1% les plus riches dans le revenu national dans les pays anglo-saxons d'une part, voire graphique 9.5, et en Europe continentale et au Japon d'autre part, voire graphique 9.6, alors on constate certes des différences notoires. La part du millime supérieur passe au cours des dernières décennies de 2% à près de 10% du revenu national aux États-Unis, soit une progression inégalée, mais également une progression très sensible dans tous les pays. En France et au Japon, la part du millime supérieur passe d'à peine 1,5% du revenu national au début des années 1980 à environ 2,5% au début des années 2010, soit un quasi-doublement. En Suède, la même part passe dans le même temps de moins de 1% à plus de 2% du revenu national. Afin que les ordres de grandeur soient bien clairs pour tous, rappelons qu'une part de 2% du revenu national pour 0,1% de la population signifie par définition que chacun au sein de ce groupe dispose en moyenne d'un revenu 20 fois plus élevé que la moyenne du pays en question, soit 600 000 euros si le revenu moyen est de 30 000 euros par habitant adulte. Une part de 10% signifie que chacun dispose de 100 fois la moyenne, soit 3 millions d'euros si le revenu moyen est de 30 000 euros. Les 0,1% en France ou au Japon sont donc passés de 15 à 25 fois le revenu moyen, soit de 450 000 euros à 750 000 euros si le revenu moyen est de 30 000 euros, alors que les 0,1% aux États-Unis sont passés de 20 à 100 fois, soit de 600 000 euros à 3 millions d'euros, toujours pour le même revenu moyen de 30 000 euros. Ces ordres de grandeur sont approximatifs, mais permettent de mieux visualiser le phénomène et de le relier aux rémunérations souvent évoquées dans les médias. Rappelons également que les 0,1% les plus riches regroupent par définition 50 000 personnes dans un pays dont la population est de 50 millions d'adultes, comme la France du début des années 2010. Il s'agit donc d'un groupe à la fois très minoritaire, 10 fois plus minoritaire que les 1%, et non négligeable de par sa place dans le paysage social et politique. Le fait central et que dans tous les pays riches, y compris en Europe continentale et au Japon, ce groupe a connu au cours des années 1990-2010 des progressions spectaculaires de pouvoir d'achat, alors même que le pouvoir d'achat moyen stagnait. Il n'en reste pas moins que ce phénomène d'explosion des très hauts revenus demeure à ce jour d'une ampleur limitée d'un point de vue macroéconomique en Europe continentale et au Japon. La hausse des très hauts revenus est certes impressionnante, mais cela concerne pour l'instant trop peu de personnes pour que l'impact soit aussi fort qu'aux États-Unis. Concrètement, le transfert en direction des 1% porte sur 2-3 points de revenu national en Europe continentale et au Japon, contre 10-15 points, suivant si l'on compte les plus-values ou non, aux États-Unis, soit entre 5 et 7 fois plus. La façon la plus simple d'exprimer la différence entre les zones géographiques est sans doute la suivante. Aux États-Unis, l'inégalité des revenus a retrouvé dans les années 2000-2010 les niveaux records observés dans les années 1910-1920, sous une autre forme, avec un rôle plus important que par le passé pour les hauts revenus du travail et moins important pour les hauts revenus du capital. Au Royaume-Uni et au Canada, elle est en voie de faire de même. En Europe continentale et au Japon, l'inégalité des revenus demeure à ce jour beaucoup plus faible que ce qu'elle était au début du XXe siècle et n'a en réalité que peu changé depuis 1945 si l'on se place dans une perspective de très long terme. Cela n'implique évidemment pas que les évolutions européennes et japonaises des dernières décennies doivent être négligées, bien au contraire. La trajectoire ressemble par certains aspects à celle observée aux États-Unis, avec une ou deux décennies de retard, et rien n'oblige à attendre que cette évolution prenne l'ampleur macroéconomique qu'elle a fini par prendre aux États-Unis pour s'en préoccuper. Mais le fait est que l'évolution est à ce jour beaucoup moins forte en Europe continentale et au Japon qu'aux États-Unis, et dans une moindre mesure que dans les autres pays anglo-saxons. Or, cela peut nous informer sur les mécanismes en jeu. Cette divergence entre les différentes parties du monde riche est en effet d'autant plus frappante que le changement technologique a été le même un peu partout. En particulier, les technologies de l'information concernent évidemment tout autant le Japon, l'Allemagne, la France, la Suède ou le Danemark que les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Canada. De même, la croissance économique, plus précisément la croissance de la production par habitant, c'est-à-dire de la productivité, a été sensiblement la même dans toutes les parties du monde riche, avec des écarts portant souvent sur quelques dixièmes de points de pourcentage, ainsi que nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Dans ces conditions, cette divergence aussi massive dans les évolutions de la répartition des revenus demande une explication que la théorie de la productivité marginale, de la technologie et de l'éducation ne semble pas en mesure de fournir. L'Europe, plus inégalitaire que le Nouveau Monde en 1900-1910. On notera également que, contrairement à une idée répandue en ce début de XXIe siècle, les États-Unis n'ont pas toujours été plus inégalitaires que l'Europe, loin de là. Comme nous l'avons déjà noté dans les chapitres précédents, l'inégalité des revenus était en réalité plus élevée en Europe au début du XXe siècle. Cela nous est confirmé par tous les indicateurs utilisés et par l'ensemble des sources historiques dont nous disposons. En particulier, la part du centile supérieur atteignait ou dépassait 20% du revenu national dans tous les pays européens vers 1900-1910. Voir graphique 9.2-9.4. Cela vaut non seulement pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, mais également pour la Suède et le Danemark, preuve que les pays nordiques n'ont pas toujours été des modèles égalitaires, loin s'en faut, et plus généralement pour tous les pays européens pour lesquels il existe des estimations pour cette période. Une telle similarité dans les niveaux de concentration des revenus en vigueur dans les sociétés européennes de la Belle Époque exige évidemment une explication. Compte tenu du fait que les plus hauts revenus étaient constitués très majoritairement de revenus du capital au cours de cette période, l'explication est à chercher avant tout du côté de la concentration des patrimoines. Pourquoi la concentration des patrimoines était-elle si forte en Europe vers 1900-1910? Il est intéressant de noter que l'inégalité était moins forte qu'en Europe, non seulement aux États-Unis et au Canada, avec des parts de l'ordre de 16-18% du revenu national pour le centile supérieur au début du XXe siècle, mais également et surtout en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec des parts de l'ordre de 11-12%. C'est donc l'ensemble du Nouveau Monde, et plus encore les parties les plus neuves et les plus récemment peuplées du Nouveau Monde, qui semble moins inégalitaire que la vieille Europe à la Belle Époque. Il est tout aussi intéressant de noter que le Japon, en dépit de toutes ses différences sociales et culturelles avec l'Europe, semble se caractériser par le même niveau élevé d'inégalité au début du XXe siècle, avec environ 20% du revenu national pour le centile supérieur. Les données disponibles ne permettent pas de faire des comparaisons aussi complètes qu'il serait souhaitable, mais tout indique que du point de vue de la structure comme du niveau des inégalités, le Japon faisait bien partie du même ancien monde que la vieille Europe. Il est également frappant de constater la similarité dans les évolutions observées au Japon et en Europe sur l'ensemble du XXe siècle. Voir graphique 9.3. Nous reviendrons plus loin sur les raisons de la très forte concentration patrimoniale observée à la Belle Époque et sur les transformations, et en particulier le mouvement de déconcentration, constaté au cours du XXe siècle dans les différents pays. Nous verrons en particulier que l'inégalité plus élevée des patrimoines observés en Europe et au Japon s'explique notamment par la plus faible croissance démographique qui caractérise l'ancien monde et qui conduit de façon quasi mécanique à une plus forte accumulation et concentration du capital. À ce stade, insistons simplement sur l'ampleur de ces retournements entre pays et continents. Cela apparaît sans doute encore plus clairement si l'on examine l'évolution de la part du décile supérieur dans le revenu national. Nous avons représenté sur le graphique 9.7 les évolutions obtenues pour la part du décile supérieur aux États-Unis et dans quatre pays européens, Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, depuis le début du XXe siècle. Nous avons indiqué les moyennes décennales de façon à focaliser l'attention sur les évolutions de long terme. On constate qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, la part du décile supérieur était de l'ordre de 45-50% du revenu national dans tous les pays européens, contre un peu plus de 40% aux États-Unis. Puis, à la suite des guerres mondiales, les États-Unis sont devenus légèrement plus inégalitaires que l'Europe. La part du décile supérieur a baissé sur les deux continents à la suite des chocs des années 1914-1945, mais la chute a été nettement plus marquée en Europe, ainsi qu'au Japon. Ce qui s'explique naturellement par le fait que les chocs subis par les patrimoines ont été beaucoup plus massifs. Pendant les années 1950-1970, la part du décile supérieur est assez stable et relativement proche aux États-Unis et en Europe, autour de 30-35% du revenu national. Puis, la très forte divergence, qui débute dans les années 1970-1980, conduit à la situation suivante. Dans les années 2000-2010, la part du décile supérieur atteint 45-50% du revenu national aux États-Unis, soit approximativement le même niveau qu'en Europe en 1900-1910. Au sein des pays européens, on observe également une grande diversité de cas, du plus inégalitaire, le Royaume-Uni avec plus de 40% du revenu national pour le décile supérieur, au plus égalitaire, la Suède avec moins de 30%, en passant par tous les cas intermédiaires, l'Allemagne et la France, autour de 35%. Si l'on calcule, de façon légèrement abusive, une moyenne pour l'ensemble de l'Europe à partir de ces quatre pays, on obtient une comparaison particulièrement claire entre les deux continents. Les États-Unis étaient moins inégalitaires que l'Europe en 1900-1910, légèrement plus inégalitaires dans les années 1950-1960, et beaucoup plus inégalitaire dans les années 2000-2010. Voir graphique 9.8. Au-delà de cette trame générale à long terme, il existe bien sûr de multiples histoires nationales particulières, avec d'incessantes fluctuations de court et moyen terme, liées notamment aux spécificités des évolutions sociales et politiques propres à chaque pays, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, en analysant de façon plus détaillée le mouvement des inégalités en France et aux États-Unis. Nous ne pouvons faire de même ici pour chaque pays. Mentionnons simplement que la période de l'entre-deux-guerres apparaît un peu partout comme particulièrement tumultueuse et chaotique, avec des chronologies variant fortement suivant les pays. En Allemagne, l'hyperinflation des années 1920 fait rapidement suite à la défaite militaire, puis les nazis arrivent au pouvoir quelques années plus tard, après que la dépression mondiale a replongé le pays dans la crise. Il est intéressant de noter que la part du centile supérieur progresse fortement en Allemagne de 1933 à 1938, totalement à contre-courant des autres pays. Cela reflète notamment la remontée des profits industriels, dopés par la commande publique aux industries d'armement, et plus généralement le rétablissement des hiérarchies de revenus qui caractérisent la période nazie. Remarquons également que l'Allemagne semble se caractériser depuis les années 1950 par un niveau du centile supérieur, et plus encore du millime supérieur, sensiblement plus élevé que dans la plupart des autres pays d'Europe continentale, en particulier plus élevé qu'en France, et qu'au Japon, alors même que le niveau global des inégalités n'y est pas très différent. Ce phénomène peut s'expliquer de différentes façons, entre lesquelles il est difficile de trancher, nous y reviendrons. Il faut également souligner que les sources fiscales allemandes comportent des lacunes importantes, en grande partie du fait de l'histoire mouvementée du pays au XXe siècle, si bien qu'il est difficile de faire toute la lumière sur chacune des évolutions et de réaliser des comparaisons parfaitement précises avec les autres pays. L'impôt sur le revenu est créé relativement tôt, dès les années 1880-1890, dans la plupart des États allemands, notamment en Prusse et en Saxe. Mais la législation, comme les statistiques fiscales, ne sont unifiées au niveau de toute l'Allemagne qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les sources statistiques connaissent ensuite de fréquentes discontinuités au cours des années 1920, avant de s'interrompre totalement de 1938 à 1950. Si bien qu'il est impossible d'étudier l'évolution de la répartition des revenus pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'immédiate après-guerre. Il s'agit là d'une différence importante avec les autres pays fortement impliqués dans le conflit, en particulier le Japon et la France, dont les administrations fiscales continuent d'établir pendant les années de guerre les mêmes dépouillements statistiques que par le passé, sans aucune interruption, comme si de rien n'était. Si l'on en juge par l'expérience des autres pays, notamment le Japon et la France, dont les trajectoires sont très proches sur ce point, il est probable que la part des hauts revenus dans le revenu total a atteint un point bas absolu en Allemagne en 1945, année zéro, où les patrimoines et leurs revenus étaient réduits à peu de choses outre-Rhin, avant de commencer à remonter fortement dès 1946-1947. Toujours est-il que lorsque les statistiques fiscales allemandes reprennent leur cours normal en 1950, la hiérarchie des revenus a déjà en partie retrouvé son niveau de 1938. En l'absence de sources complètes, il est difficile d'aller plus loin. Les multiples changements territoriaux de l'Allemagne au cours du siècle écoulé, tout récemment avec l'unification de 1990-1991, ajoutés au fait que les dépouillements fiscaux les plus complets ne sont établis que tous les 3 ans, et non annuellement comme dans la plupart des autres pays, complique encore un peu plus l'étude fine du cas allemand.